Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Clé des Songes. Nous voilà déjà arrivés au dernier épisode de cette série. Pour l'occasion, j'ai décidé d'aborder un sujet plutôt méconnu du grand public. On va commencer avec le témoignage de Johanna. Elle a 25 ans, elle habite à Marseille et elle vit depuis plusieurs mois un phénomène rarement abordé par les médias. Elle nous raconte son expérience au travers de plusieurs anecdotes. Écoutez.
La première fois, c'était indépendant de ma volonté, puisque je savais même pas ce que c'était en fait. J'en avais vaguement entendu parler, mais je savais pas ce que c'était. Et j'étais donc dans mon lit, en train d'essayer de m'endormir comme d'habitude. Et à la place de faire une paralysie du sommeil que je fais souvent, là en fait, je me retrouve debout. Je ne sais même plus comment je me suis retrouvée debout, parce que je me rappelle pas m'être levée, mais j'étais debout. Et en fait, je me sentais super légère par rapport à d'habitude, c'est plutôt agréable. Du coup, je me suis dit, oh, c'est bizarre. Et en fait, quand je me suis retournée vers mon lit, j'étais dans mon lit. Enfin, je me suis vue dans mon lit. Donc, du coup, j'ai quand même un peu stressé. Et au moment où je regarde mon visage, je suis hop, directement réabsorbée. Et en fait, je retourne dans mon corps et je me réveille instantanément. Donc, ça a duré 20 secondes, quoi, à peu près.
Johanna a eu l'occasion de vivre une deuxième fois la même expérience. À peu de choses près, elles étaient quasiment les mêmes. Mais la troisième fois, ce qu'elle a vécu n'avait pratiquement rien à voir.
La troisième fois, vraiment aucun rapport, c'est allé beaucoup plus loin. J'étais pas dans ma chambre cette fois, j'étais chez mon grand-père à Carcassonne. Donc j'étais allongée sur le dos et je commence à petit à petit perdre des sensations dans mes mains, dans mes pieds, mais c'est habituel puisque je me dis bon, bah, je vais encore faire une paralysie du sommeil, ça va durer 10 minutes, puis je vais m'endormir. Et en fait non, là je sens que je peux me redresser et je me redresse, je sais pas pourquoi parce que j'étais sur le point de dormir. Donc je suis assise dans mon lit et là j'ai vraiment l'impression d'être assise dans mon lit, vraiment que mon corps physique est assis dans mon lit, mais en fait non. Et là, c'est comme si j'étais tirée par les pieds et d'un coup projetée contre le mur en face et j'étais en fait dos au mur. Donc face au lit, en hauteur, mes pieds ne touchaient pas le sol, comme si vraiment, un peu comme dans les films d'horreur. Et ça m'a refait la sensation de la glu, sauf que là c'était bah, du coup sur tout mon dos. Et du coup je me vois dans le lit. Donc je me dis, ah, ça, direct, j'ai la conscience de me dire que ça me refait ça, mais je me dis, ah bah là c'est bizarre que je sois pas juste simplement debout à côté. Donc j'essaye de me décoller du mur, j'y arrive pas. En fait là je commence à réaliser que je suis pas au sol, donc en fait je vole. Donc je pousse fort sur le mur, je pousse avec mes pieds comme quand on se pousse dans la piscine. Et là je me retrouve debout au pied de mon lit. Donc là je me vois toujours en train de dormir et je me dis je vais essayer de sauter sur l'autre lit. Je suis incapable de faire ça dans la vie de tous les jours. Et j'arrive à sauter, mais c'est encore une fois, tout est très très lent. Enfin, vraiment comme si c'était la gravité de la lune.
Johanna effectuera plusieurs allers-retours d'un lit à l'autre pendant plusieurs minutes jusqu'à ce qu'elle commence à paniquer.
Et là d'un coup j'angoisse et je me dis que ça avait jamais duré aussi longtemps et je me dis peut-être que je vais jamais pouvoir réintégrer mon corps, donc vite faut que j'y aille en fait. Donc j'essaye de me regarder comme les deux dernières fois, ça marche pas. Je commence à vraiment stresser, donc là c'est plus du tout agréable. Je me dis que la seule manière c'est d'essayer de m'allonger et de moi-même faire l'effort de me remettre sur moi. Et donc j'essaye de prendre la même position. Donc seulement avec ce que je voyais, j'essaye de mettre ma main au même endroit que ma main, ma jambe, etc. Exactement comme j'étais. Je sens que j'ai toujours pas réintégré mon corps parce que je le sens toujours pas, mais je suis dans la bonne position. Et là j'entends comme des ronronnements de chat, et en fait je me rends compte que c'est ma respiration. Et du coup j'essaye de me caler sur la respiration, en plus d'être dans la même position. Et là doucement j'ai l'impression que ça a duré une éternité en fait. Dans ma tête ça faisait plusieurs heures que j'essayais. Et j'ai réussi au final, j'arrivais à refermer mes poings, à ressentir mon corps et à me réveiller. Et quand je regarde l'heure, en fait, il s'était passé en tout 40 minutes.
Ce que Johanna a eu l'occasion d'expérimenter, ça s'appelle le voyage astral. Je vous l'ai dit plus tôt, ce phénomène est rarement abordé par les médias, et ça pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un phénomène un peu mystique, qui s'apparente à de la parascience, c'est-à-dire que les explications données à ce phénomène s'éloignent des méthodes reconnues officiellement par la communauté scientifique. Quand on dit mystique, c'est parce qu'on estime à une dizaine de pourcents le nombre de la population qui serait capable de vivre cette expérience. Donc forcément, la science ne reconnaît pas encore ce phénomène et n'y trouve, voire n'y cherche même pas d'explication. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? Le voyage astral, c'est un phénomène au cours duquel nous avons l'impression que notre corps astral se détache de notre corps physique pour voyager dans l'espace environnant. On admet alors l'existence d'un plan astral dans lequel il n'y a plus de limite d'espace ou de temps. Cette expérience vécue comme positive nous permettrait de voyager de pièce en pièce, de pays en pays, voire même dans l'espace et d'explorer d'autres univers. Pour parler de ce phénomène, il existe tout un tas d'expressions différentes, mais les termes les plus principalement employés sont la décorporation, la projection astrale ou encore la sortie hors du corps. La plupart du temps, quand on parle de voyage astral, on associe cette expérience au sommeil et au rêve. Pourtant, ce n'est qu'une des manières parmi tant d'autres de l'aborder et de l'explorer. L'une d'elles, ce sont les expériences de mort imminente, qu'on appellera ici EMI. Pour avoir un avis fondé sur la question et un apport scientifique, j'ai rencontré une chercheuse de l'ULIÈGE. Elle s'appelle Charlotte Martial, elle est diplômée en psychologie et elle a fait une thèse en sciences biomédicales sur les expériences de mort imminente.
Alors une expérience de mort imminente, c'est une expérience subjective que n'importe quel être humain peut vivre quand il se retrouve face à la mort dans une situation critique comme par exemple un arrêt cardiaque, un traumatisme ou autre. Et la particularité des expériences de mort imminente, c'est vraiment qu'il y a des dimensions prototypiques, donc vraiment récurrentes, comme par exemple sortir de son corps, voir une lumière brillante au bout d'un tunnel, rencontrer des entités ou des personnages, etc. Et donc là, il y a toute une série de dimensions prototypiques qui définissent ces expériences. Mais de façon générale, c'est quand même des expériences qui seront vraiment rapportées comme étant très intenses, avec beaucoup d'émotions, vraiment des dimensions qui sont vraiment particulières et qui ont un aspect extraordinaire, comme sortir de son corps. Maintenant, ce qui est assez impressionnant, c'est que pour la plupart, mais pas tous encore une fois, c'est que il y a vraiment une sensation de paix et de bien-être qui est associée aux expériences de mort imminente.
Parmi ces dimensions prototypiques, Charlotte Martial a parlé de sortie hors du corps. Dans le milieu scientifique, on parlera plus souvent de OBE, qui signifie Out of Body Experience, soit la traduction en anglais de sortie hors du corps. Bon voilà, en théorie, on a compris ce que c'était, mais concrètement, qu'est-ce qu'il se passe dans notre corps et dans notre cerveau lors de cette expérience subjective plutôt mystique ?
Selon cette hypothèse, l'idée c'est qu'il y a vraiment un chamboulement au niveau de l'activité d'une région bien spécifique qui est donc la jonction temporoparietale, ça se trouve ici sur le côté en surface du cerveau.
Pour que vous y voyez un peu plus clair, la jonction temporoparietale se trouve à la pointe de nos oreilles, en surface du cerveau, et comme son nom l'indique, elle se situe au croisement entre le lobe pariétal en haut et le lobe temporal en bas.
Ça provoquerait vraiment cette sensation de sortir de son corps. Et puis, la théorie, de façon plus complexe, elle va aussi expliquer qu'en fait, c'est parfois aussi le fait de ne pas recevoir les inputs, comme on dit, sensoriels, habituels. Et du coup, le cerveau va en fait créer toute une nouvelle réalité pour s'adapter à la situation qui est compliquée. C'est très complexe, mais en gros, il y a aussi des théories par rapport au stress physiologique qui peut être associé à ça, où on sait que si par exemple le niveau d'oxygène baisse, notamment dans le cerveau, ça pourrait favoriser une expérience de ce type-là.
Pour l'instant, la recherche n'a trouvé aucune condition préalable qui permettrait de définir un archétype particulier des personnes capables de vivre une OBE. Pour tenter de donner une explication à ce sujet, on peut aborder cette expérience sous deux approches différentes. La première, c'est l'approche ésotérique. C'est un peu la définition que j'ai donnée au début de cet épisode. Donc ce sont des personnes qui rapportent leur expérience, dans laquelle elles ont eu l'impression que leur esprit est sorti en dehors de leur corps physique. Cette expérience peut se produire dans plein de conditions différentes, lors de l'endormissement, au réveil, dans un état de relaxation intense ou de stress intense, à l'approche de la mort ou encore lors de la prise de drogues hallucinogènes. C'est une expérience qui est subjective et toutes les théories qui y sont liées relèvent du témoignage de leurs expérimentateurs. Certains témoins aguerris parlent carrément d'exercices et de conseils pour parvenir à contrôler les voyages astraux et prendre possession de notre esprit pour pouvoir voyager en pleine conscience. Ils affirment que tout le monde en est capable, à condition d'y croire et d'avoir beaucoup de motivation. L'avis de la communauté scientifique sur le sujet, c'est que ces expériences ressortent uniquement de l'onirisme, donc des rêves. Justement, du côté de l'approche scientifique, même s'il n'existe pas encore de consensus, certaines hypothèses bien établies sortent du lot.
Dans la littérature scientifique, il y a vraiment des hypothèses maintenant qui se précisent de plus en plus, des hypothèses neurophysiologiques, et puis il y a aussi tout un volet plus psychologique. Donc dans les hypothèses neurophysiologiques, il y a vraiment, par exemple, une région dans le cerveau qui est associée à cette expérience de décorporation, c'est la jonction temporoparietale. Comment on sait ça? En fait, parce que il y a une étude empirique qui a démontré qu'en stimulant cette partie du cerveau de façon précise, on peut reproduire une expérience, une sensation subjective d'avoir l'impression de sortir de son corps. Et puis il y a aussi, comme je disais, plutôt un volet, je dirais, théorie psychologique où on peut voir ça aussi comme on peut voir ces fameuses expériences de décorporation comme un mécanisme de défense. Donc là, ici, je prends le cas, bien sûr, des EMI, où la personne est dans une situation critique. Et pour faire face à cette réalité qui est compliquée, il y a le cerveau qui va en fait s'adapter et créer une plus jolie et paisible réalité. Et c'est vraiment sortir de son corps l'impression qui en résulte.
Voilà les deux principales théories reconnues aujourd'hui dans la science. Elles ne sont pas exclusives, elles pourraient même se compléter, mais les recherches ne sont pas encore allées assez loin pour l'affirmer. Malgré toutes ces théories, qu'on y croit ou pas, certains témoignages demeurent assez mystérieux. Charlotte Martial a identifié deux catégories de témoignages qui la laissent sans explication.
Il y a vraiment ceux qui justement vivent une OBE et qui vont rapporter des éléments de l'environnement alors que, dans le cas ici des EMI, ils étaient vraiment considérés comme inconscients. Donc par exemple, une personne qui a eu un arrêt cardiaque vit une OBE, et puis à la suite de ça, à son réveil, elle va rappeler des choses de l'environnement qui se sont passées alors que les gens qui étaient là avec elle considéraient la personne comme inconsciente, les yeux fermés, etc. Et puis la deuxième chose, c'est ces fameuses expériences de mort imminente qui sont négatives, où les gens peuvent vivre une OBE. La personne peut se retrouver dans un monde qu'on appelle infernal, vraiment ce qu'on peut se représenter de l'enfer, avec des monstres, etc., des émotions super négatives.
Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. Il y a énormément d'informations différentes à enregistrer. La recherche scientifique dans ce domaine avance très lentement, et ce qui freine la recherche justement, c'est le manque de moyens de la science, mais aussi le manque de personnes qui acceptent de témoigner. En tout cas, du côté des EMI, beaucoup de patients refoulent cette expérience parce qu'elle peut être associée à d'autres expériences plus négatives. Par contre, le nombre de témoignages de personnes qui vivent un voyage astral durant leur sommeil ou lors de la méditation, lui, est vraiment grandissant. C'est un sujet dont la parole se débloque petit à petit. Il existe des groupes Facebook où les personnes partagent leurs expériences et leurs conseils, mais encore une fois, ce ne sont pas des expériences reconnues par la communauté scientifique. N'hésitez pas à me dire si vous croyez ou pas en ce phénomène, et si c'est le cas, en quelle théorie vous croyez. Merci beaucoup d'être resté à l'écoute de La Clé des Songes, et je vous dis à bientôt.